Alors, mes amis, je tiens à vous féliciter d'être venus à l'église réformée évangélique cet après-midi. Sans doute la meilleure église de Lyon, que dis-je ? La meilleure du Rhône ou peut-être même de Rhône-Alpes. Ici, vous pouvez rencontrer la forme la plus évoluée du christianisme. J'ai nommé le christianisme réformé évangélique, calviniste, pédobaptiste, amillénariste, cessationniste et complémentariste. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, croyez-moi, ça veut juste dire qu'on est les meilleurs. Donc je vous félicite d'être venus ici. On prend la Bible au sérieux. Ici, on chante des psaumes. Ici, les gens sont très généreux. Il y a juste un petit problème. C'est que Jésus compte nous vomir de sa bouche. Et si ça vous fait rire, j'espère que c'est un rire nerveux. J'ai volontairement grossi le trait, mais la réalité, c'est quoi ? C'est que nous sommes plusieurs ici à penser, honnêtement, que par rapport à la plupart des chrétiens, nous sommes au moins au-dessus de la moyenne, non ? Enfin, au moins au-dessus de la moyenne, même individuellement, par rapport à notre vie chrétienne personnelle. Je suis sûr que nous sommes plusieurs ici à penser honnêtement que nous avons plus de leçons à donner qu'à recevoir. Si les gens vous ressemblaient seulement un petit peu plus, ils seraient de meilleurs chrétiens, non ? Et si vous ne le pensez pas, c'est peut-être parce que vous êtes de l'autre côté de cette situation. C'est-à-dire que vous vous sentez petit, à côté de gens qui vous intimident, par leur connaissance théologique et par leur intégrité morale. Oh, si vous pouviez leur ressembler un jour. D'ailleurs, en venant dans cette église, c'est pour mettre toutes les chances de votre côté. Ou bien, si vous ne pensez pas être au-dessus de la moyenne en tant que chrétien, c'est peut-être tout simplement parce que vous ne prétendez pas être un chrétien. C'est peut-être aussi simple que ça. Mais quoi qu'il en soit, en tant que chrétien chevronné, en tant que jeune chrétien ou en tant que non-chrétien, votre définition ou votre perception du bon chrétien est peut-être la même, à savoir quelqu'un de calé en termes de doctrine et de conduite. Ça, c'est un bon chrétien. Il est calé, il s'y connaît en doctrine et en intégrité morale, en conduite. Quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de discipliné. Et cette personne-là, certains d'entre nous, nous la reconnaissons chaque matin dans la glace. D'autres parmi nous la regardons avec admiration à l'église de dimanche ou dans la biographie de tel réformateur ou de tel puritain avec le désir et l'ambition ardente de lui ressembler un jour. Mais d'autres encore, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, d'autres encore sont découragés, voire rebutés, repoussés, précisément par cette image du bon chrétien. Une image qui les conduit même à vouloir rejeter le christianisme, cette religion élitiste, faite de règles rigides et tyranniques. Et ils auraient raison de rejeter un tel christianisme. Ce christianisme, ce pseudo-christianisme que Jésus lui-même, comme je l'ai dit, compte vomir de sa bouche, pour reprendre tout simplement une expression que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et ce qu'on va voir, je l'espère aujourd'hui, cet après-midi, c'est qu'en tant que chrétien, la qualité de notre religion ne se mesure pas d'abord à notre doctrine ou à notre conduite, mais d'abord à la relation personnelle que nous avons avec Jésus-Christ. Alors en le disant comme ça, ça peut paraître un peu cliché, mais ce n'est pas juste un cliché. Vous allez le voir, je l'espère, comme moi je l'ai vu en étudiant ce texte, qu'en fait, c'est quelque chose qui comporte vraiment des conséquences importantes pour notre vie. En fait, la leçon du texte qu'on va lire dans quelques secondes maintenant, cette leçon, on pourrait la résumer de la manière suivante. Le christianisme devient nocif quand Jésus n'y occupe pas la place qui lui revient. Le christianisme devient nocif quand Jésus n'y occupe pas la place qui lui revient. Et vous allez voir que le texte va d'abord nous parler d'une religion disproportionnée, ensuite d'une religion hypocrite, pour enfin évoquer la religion authentique du vrai christianisme. Lisons ce texte, il s'agit de Matthieu chapitre 12, évangile donc selon Matthieu chapitre 12, versets 1 à 21. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition que ni lui ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls, avaient la permission de manger. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat ?» Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle redevint saine, comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus la prit et se retira de là. Beaucoup le suivirent. Il les guérit tous et il leur recommanda de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice. Et les nations espéreront en son nom. » C'était la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci car tu l'utilises dimanche après dimanche, jour après jour, pour nous instruire, pour édifier notre foi. Et c'est ce que nous demandons encore ce soir. Que par ton esprit, Seigneur, tu nous rendes attentifs et que tu rendes fructueuse la prédication de ta parole. Afin qu'elle porte du fruit, effectivement, dans notre vie à chacun, et cela pour ta gloire. Amen. Le christianisme devient nocif quand Jésus n'y occupe pas la place qui lui revient. Et le texte souligne trois choses. La première, c'est que tout dans le christianisme n'est pas d'égale importance. Tout dans le christianisme n'est pas d'égale importance. Dans le texte, il y a des gens donc, qu'on rencontre qui s'appellent des pharisiens. Ce sont les plus grands spécialistes de la religion à l'époque de Jésus, d'accord? Et ces pharisiens font des reproches aux disciples de Jésus parce qu'il leur semble que ces disciples sont en train d'enfreindre une règle religieuse importante, dont eux sont donc les spécialistes. Ils sont, semble-t-il, en train d'enfreindre une règle religieuse importante qui est celle du sabbat, c'est-à-dire la règle selon laquelle, à cette époque-là, parmi les juifs, on ne devait pas travailler le septième jour de la semaine. En fait, si on regarde vraiment la loi de l'Ancien Testament, en fait, les disciples ne sont pas du tout en train d'enfreindre le sabbat, ils ne sont pas du tout en train d'enfreindre cette loi de l'Ancien Testament. Mais ce qui est intéressant, c'est que la ligne de défense de Jésus, la réponse de Jésus n'est pas du tout ça. Il aurait pu leur dire tout simplement, non mais ils ne sont pas en train d'enfreindre la loi à ce niveau-là, regardez bien ce qui est dit, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Non, la ligne de défense de Jésus consiste plutôt à révéler un problème plus fondamental, plus général, qui existe chez ces pharisiens. Et ce problème, c'est qu'ils ne reconnaissent pas que dans les exigences de Dieu, même si elles sont toutes bonnes, dans les exigences de Dieu, il y en a qui comptent plus que d'autres. Par exemple, c'est l'exemple que prend Jésus, le roi David, il cherchait à échapper au roi Saül qui voulait le faire mourir, eh bien il a pu manger du pain qui normalement était réservé, strictement réservé, au sacrificateur, au prêtre, donc qui était interdit à David et à ses hommes, mais il l'a fait et il ne s'est pas rendu coupable. Tiens. Autre exemple, pour Jésus, les prêtres, les sacrificateurs qui se consacrent au service de Dieu et qui travaillent dur, justement, eux, le jour du sabbat, peut-être ils travaillent le double le jour du sabbat, et pourtant, ils ne se rendent pas coupables non plus. Autre exemple, encore cité par Jésus, le prophète Osée qui dit que Dieu préfère la miséricorde au sacrifice, c'est-à-dire que Dieu préfère un cœur contrit qu'un sacrifice hypocrite. Bien sûr, les deux peuvent aller ensemble, le sacrifice sincère et le cœur contrit. Mais bon, s'il faut choisir entre les deux, il y en a quand même un des deux qui compte plus que l'autre. Le cœur contrit vaut mieux que le sacrifice. Mais Jésus va encore plus loin, en disant qu'il y a quelque chose qui compte encore plus que tout ça. C'est lui-même. C'est lui-même qui, dit-il, est plus grand que le temple, ce qui est sous-entendu dans cette remarque, et qui est même, dit-il, le maître du sabbat. Le texte sous-entend ici que tout l'Ancien Testament, par ses lois et ses dispositions cultuelles, pointe vers celui qui en est le centre et l'objet véritable, à savoir Jésus. Et donc ce que Jésus est en train de faire ici, en réponse à l'accusation des pharisiens, c'est qu'il est en train, écoutez bien, de relativiser le sabbat par rapport à lui-même. Il relativise une loi de l'Ancien Testament par rapport à lui-même. Et c'est comme ça que Jésus compte corriger la religion disproportionnée des pharisiens. Alors tout dans la révélation de Dieu est bon. Tout dans le christianisme est important. Mais tout n'est pas d'égale importance. Et tout doit être relativisé par rapport à Jésus. Quand on ne reconnaît pas cette réalité, on peut facilement aboutir à un christianisme disproportionné, difforme et même hideux. Imaginez qu'on vous demande de dessiner un bonhomme sur une feuille de papier. Vous êtes en train de jouer à Pictionary. Vous devez dessiner un bonhomme sur une feuille de papier. Imaginez que vous lui dessiniez à ce bonhomme un pied droit gigantesque. Et vraiment un pied droit énorme, monumental. Alors que tout le reste est plus ou moins correct. Et ensuite, vous montrez ce dessin à quelqu'un et vous lui demandez ce qu'il en pense. Qu'est-ce qui va retenir son attention, à votre avis? Qu'est-ce qu'il va remarquer en premier? Si vous lui demandiez de décrire le bonhomme, il commencerait par quoi, sans doute? Qu'est-ce qui caractérise ce bonhomme? Eh bien, ce bonhomme, c'est d'abord un pied. C'est un pied gigantesque. Et si on avait demandé aux contemporains de Jésus de décrire la religion des pharisiens, ils auraient commencé par quoi? Ben, apparemment, d'après les spécialistes de la religion de notre époque, ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord le sabbat, la dîme, les sacrifices, et ainsi de suite. Et vous, votre religion, elle ressemble à quoi? Si on demandait à quelqu'un de décrire votre religion, par quoi est-ce qu'il commencerait? C'est là que ça devient un peu humiliant pour moi. Apparemment, si j'en crois ce que je vois chez Alex, le christianisme, c'est d'abord l'opposition au mariage pour tous, le baptême des bébés, la prédication textuelle suivie, la théologie calviniste. Franchement, il y a tellement de choses, n'est-ce pas, qui sont susceptibles de prendre une place exagérée dans notre christianisme, qui nous conduisent ensuite vers une religion disproportionnée. Et parmi ces choses, on pourrait en faire une liste interminable, sans doute, mais il y a le style de la musique dans le culte, le respect du repos dominical, la place des femmes dans l'église, l'éducation des enfants, l'éthique sexuelle, l'interprétation des premiers chapitres de la Genèse ou l'interprétation des derniers chapitres de l'Apocalypse, etc., etc. Toutes ces choses sont importantes, bien sûr, elles sont importantes. Mais tout dans le christianisme n'est pas d'égale importance. Et tout dans le christianisme doit être relativisé par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus qui est le sujet, l'objet, la source, le centre et le but de notre religion. N'est-ce pas? La religion disproportionnée, c'est la religion où quelque chose d'important fait de l'ombre à quelque chose de plus important. C'est la religion où le pied droit fait de l'ombre à la tête. C'est la religion où le zèle du disciple fait de l'ombre à son maître. Or, la religion disproportionnée est dangereuse non seulement parce qu'elle nous conduit à une religion difforme, hideuse et en fin de compte dénaturée, mais aussi parce qu'elle conduit facilement à une religion hypocrite. Et c'est ce que la suite du texte nous fait comprendre. La deuxième chose en effet qui est soulignée dans ce texte, c'est que le zèle peut devenir la meilleure cachette du péché. Le zèle peut devenir la meilleure cachette du péché. Ce qui se passe dans le texte à partir du verset 9, c'est quand même franchement extraordinaire. Les pharisiens, ils lâchent pas l'affaire, hein. Avec leur religion disproportionnée, ils sont tellement attachés à cette loi du sabbat qu'ils vont continuer de défendre leur point de vue, bec et ongles, au détriment de celui qui est le maître du sabbat, au détriment de celui qui est plus important que le temple, jusqu'à se retrouver dans ce passage, versets 9 à 14, dans une hypocrisie totale et manifeste. En fait, les pharisiens se ridiculisent à la fin de cette histoire. Et cette hypocrisie, on la voit déjà au verset 10, où ils demandent à Jésus si, d'après lui, il a le droit de faire une guérison miraculeuse le jour du sabbat. Ah, il faut y réfléchir un petit moment à ça. Remarquez bien que les pharisiens ne mettent pas en doute la capacité de Jésus à faire un miracle. Ils s'y attendent même. Ils s'attendent à ce qu'il fasse quelque chose pour cet homme qui a la main sèche. La main paralysée, quoi, si vous voulez. Autrement dit, les pharisiens sont tellement obnubilés par leur zèle concernant le respect du sabbat, tellement aveuglés par leur intention d'accuser quelqu'un qui ne pense pas comme eux, qui conteste leur enseignement, que même une puissance miraculeuse époustouflante, ils sont prêts à l'assujettir à leur propre religion disproportionnée. Ah oui, il faut le faire quand même. Ils marchent sur la tête, comme on dit. Hein. Et la réponse de Jésus, à ce moment-là, elle est profondément sarcastique. Il est permis de faire du bien les jours de sabbat. Ouf, ben me voilà rassuré. Les pharisiens ici sont pris à leur propre piège. Leur religion disproportionnée les a conduits à une hypocrisie manifeste et même absurde, où ces pharisiens, dans cette hypocrisie-là, ils préféreraient qu'on ne soigne pas un homme plutôt qu'on enfreigne leur interprétation du sabbat. Comme le dit Calvin sur ce passage, il dit ceci, « Pour repousser les pharisiens, cette seule réponse était suffisante, car il n'y a rien de plus étrange que d'appeler transgresseur du sabbat celui qui obéit à Dieu. » Il est permis de faire du bien, quand même, le jour du sabbat. L'hypocrisie des pharisiens est soulignée ensuite au verset 14, où il dit qu'ils sortent, on est toujours le jour du sabbat, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils sont sortis? Ils vont se consulter sur les moyens de faire mourir Jésus. Ah bon, ça c'est permis le jour du sabbat? Donc pour récapituler, en ce jour du sabbat, les pharisiens qui tiennent tellement à ce que le sabbat soit respecté, ils ont commencé par vouloir interdire à Dieu de guérir un malade. Ils ont sous-entendu qu'il n'était pas permis de faire le bien ce jour-là. Et enfin, ils ont prémédité le meurtre d'un homme. Ah oui, c'est sûr que tout ça, ça vaut mieux que s'humilier et de reconnaître son péché. Hein. Enfin, pour un pharisien peut-être. Le zèle peut devenir la meilleure cachette du péché. Je peux penser à plusieurs responsables de mouvements chrétiens très conservateurs ces dernières années, qui ont été reconnus coupables de pratiques immorales, alors même qu'ils exerçaient leur ministère avec le plus grand zèle et la plus grande piété. L'un d'eux était une figure du mouvement dit patriarcal, c'est-à-dire d'un mouvement chrétien qui cherchait à encourager les hommes à assumer leurs responsabilités, notamment au niveau familial. Un mouvement dont l'éthique au niveau du mariage et de la sexualité était des plus strictes. Et d'ailleurs, il y a sans doute beaucoup de choses bonnes dans ce type de mouvement. Il y a moins d'un an, on a découvert que cet homme, leader respecté et admiré, marié et père de plusieurs enfants, exemple éminent de piété et de consécration à Dieu et à sa famille. Cet homme-là abusait sexuellement depuis des années une fille au père qui travaillait chez lui. Alors on n'est pas tous dans une situation de cette gravité, mais la religion disproportionnée conduit vers la religion hypocrite en fait. Quand quelque chose dans notre christianisme prend une place disproportionnée, qu'est-ce qui se passe habituellement? Habituellement, on devient sensible sur ce point-là. Et notre piété, subtilement, devient petit à petit centrée sur la critique et le jugement de ceux qui ne partagent pas notre avis, plutôt que centrée sur notre relation personnelle à Jésus. Et le résultat, il est simple, c'est que nous devenons enclins à l'accusation plutôt qu'à la contrition. C'est exactement l'attitude des pharisiens, enclins à l'accusation, qui cherchent l'occasion d'accuser. Et ensuite, pour nous, voir la paille dans l'œil du prochain plutôt que la poutre dans notre œil à nous, ça devient presque un réflexe, un mode de fonctionnement par défaut. Ça devient automatique. La paille et la poutre. Quand vous rencontrez pour la première fois un chrétien, vos antennes se dressent. Et vous guettez le moindre indice sur ce qu'il croit concernant le ministère pastoral féminin, ou les dons charismatiques, ou le baptême, ou le calvinisme, ou la doctrine des origines, ou encore la doctrine de la fin des temps. Et hop ! Dès que vous avez capté un signal, vous avez aussitôt répertorié, accusé et jugé la personne. Dites-moi si je me trompe. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur et dans votre vie à vous? Quel péché se cache derrière votre zèle? La médisance, l'intrigue, la convoitise, la jalousie, l'orgueil, la colère, la paresse, l'incrédulité, etc., etc. Le zèle peut devenir la meilleure cachette du péché. Le zèle peut devenir un prétexte confortable pour ne pas nous préoccuper de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Nous pouvons être la meilleure église de Lyon, les meilleurs chrétiens en France et même dans le monde, en termes de doctrine et de conduite, apparemment les meilleurs, mais ça n'empêchera pas Jésus de nous vomir de sa bouche, comme il le dit au sujet de l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Et pourquoi est-ce qu'il les vomit de sa bouche, ces chrétiens? Pourquoi il vomit cette église de sa bouche? Je cite, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alors, au lieu de ce type de religion disproportionnée et hypocrite, quelle est la religion authentique? C'est la troisième et dernière chose que nous apprend ce texte, me semble-t-il. La religion authentique procède d'un cœur contrit devant un sauveur meurtri. La religion authentique procède d'un cœur contrit devant un sauveur meurtri. Et le texte nous apprend, à partir du verset 15, que Jésus il va quitter les lieux. Et il va poursuivre tout simplement le ministère qu'il avait commencé, hein, et on avait déjà vu tout ça dans les chapitres précédents, et ce ministère consistait notamment à faire du bien à un peuple lassé et abattu, qui ressemblait, disait Jésus, à des brebis abandonnées, dispersées, lassées et abattues. Jésus, il sort et il continue son ministère, il poursuit son ministère. Il va leur faire du bien, les soulager de leurs maux. Mais le texte précise qu'il le fait, tout cela, sans chercher à attirer l'attention sur lui-même, conformément à ce qui était prédit dans l'Ancien Testament au sujet du Messie qui devait venir. Ce Messie, ce serviteur de Dieu, le bien-aimé du Père, investi du Saint-Esprit, devait venir d'après les prophéties et d'après celle qui est citée ici. Il devait venir accomplir quelque chose d'extraordinaire au profit du monde, mais sans véhémence, sans déploiement de force, sans brutalité de sa part. Voilà ce qui devait caractériser le Messie. Et le prophète dit dans ce passage que le Messie devait faire triompher la justice, incroyable, mais sans écraser les faibles. Finalement, le Messie devait faire ce que recherchaient en fait les pharisiens quelque part, à faire triompher la justice, c'est-à-dire à faire prévaloir la justice de Dieu, c'est-à-dire à faire appliquer, à faire connaître et appliquer la loi de Dieu. Mais contrairement aux pharisiens, le Messie, lui, devait trouver un moyen de le faire sans briser le roseau froissé, sans éteindre le lumignon qui fume, c'est-à-dire sans laisser sur la touche les vulnérables, sans abandonner ceux qui sont à bout de force. Et c'est là qu'on voit le contraste, n'est-ce pas? Le contraste entre la religion de Jésus, la vraie religion, et la religion des pharisiens. Le but est presque le même, on pourrait dire. Sauver les hommes en faisant triompher la justice de Dieu. Mais le chemin et le résultat final sont complètement différents. Contrairement aux pharisiens qui tyrannisent, qui violentent, qui écrasent, qui matraquent, qui accusent. Alors Jésus, lui, contrairement à eux, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve, il relève, il guérit, il fortifie, il encourage, il donne le repos, il donne le vrai repos, le vrai sabbat. Et comment fait-il pour accomplir cela de manière si efficace, sans élever la voix, sans briser le roseau froissé? Comment fait-il? Il prend notre place, tout simplement. Il se sacrifie pour nous, tout simplement. Ce qu'aucun pharisien n'aurait jamais fait. Jésus, il s'humilie. Il se dépouille de sa puissance et de sa gloire. Et il prend ce chemin méprisable de la croix, où il devient péché, à la place des faibles, à la place des roseaux froissés, à la place des lumignons qui fument, à la place de ces bougies qui sont sur le point de s'éteindre. Et l'innocent qu'il est, sur la croix, se fait tyranniser violenté, écrasé, matraqué et accusé à notre place. Et comme ça, le juste châtiment de nos fautes, de nos péchés, tombe sur lui. Ce châtiment est détourné sur lui. Et ainsi, la justice de Dieu prévaut. Ainsi, la justice de Dieu triomphe, mais sans que les roseaux froissés que nous sommes soient brisés. Et cette équation formidable entre la justice de Dieu et la faiblesse du pécheur, cette équation que les pharisiens s'efforcent de résoudre par leurs vains efforts religieux qui de toute façon sont voués à l'échec, cette équation est parfaitement résolue en Jésus sur la croix. C'est à cause de la croix de Jésus que le christianisme, et j'entends le vrai christianisme, est la seule religion crédible. La religion authentique procède d'un cœur contrit devant un sauveur meurtri. Ça me fait penser à l'histoire de Rick Hoyt, un homme de 49 ans qui à ce jour a participé à plus de 238 triathlons, 68 marathons, 92 semi-marathons et 212 courses de 10 km. Impressionnant, non ? Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Rick Hoyt est quadriplégique depuis la naissance, c'est-à-dire qu'il est paralysé des deux bras et des deux jambes. Il a pourtant pu franchir la ligne d'arrivée de chacune de ses courses. Et comment ? Grâce à son papa, qui le portait, et qui a souffert à sa place, qui s'est fatigué à sa place, qui s'est dépensé à sa place. Maintenant, si Rick Hoyt était interviewé par un journaliste à la fin d'un de ses triathlons, vous pensez qu'il dirait quelque chose du genre « Oui, c'était très difficile, mais bon, j'ai redoublé d'efforts, et à force de rigueur et de discipline, j'ai réussi à franchir la ligne d'arrivée. Je suis très satisfait de ma performance, merci. » Je ne pense pas que c'est ce qu'il dirait. Je pense qu'il n'aurait que des mots pour son père, que des mots pour son papa, pour sa performance, pour son sacrifice, pour ses souffrances, pour son amour, n'est-ce pas ? Et le christianisme, le vrai, devrait être caractérisé par ça. Par la place prépondérante que devrait y occuper notre Sauveur, et sa performance, et ses souffrances, et son sacrifice, et son amour. Et seul un cœur humilié devant sa propre invalidité spirituelle, devant son propre handicap spirituel, sa propre infirmité spirituelle, seul un cœur humilié devant ça, et en même temps devant l'exploit réalisé par grâce et à grand prix par Jésus-Christ, seul un cœur humilié par ces choses peut naturellement, et j'ai envie de dire même irrésistiblement, tout relativiser par rapport à la personne et à l'œuvre du Messie. Seul un cœur humilié par ces choses peut naturellement et même irrésistiblement se mettre à tout relativiser par rapport à la personne et à l'œuvre du Messie, à savoir Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes déchus, parce que nous sommes corrompus dans notre nature en tant qu'êtres humains, nous sommes plutôt enclins à faire l'inverse, c'est-à-dire à relativiser Jésus par rapport à notre personne et nos œuvres. C'est sans doute généralement inconscient, mais qu'est-ce que nous disons intérieurement au fond ? Qu'est-ce que nous disons intérieurement au fond, même en tant que chrétiens ? Jésus est utile. Bah, c'est sûr, ça aide de connaître Jésus. Mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai réussi à résoudre et qui font de moi quelqu'un d'assez exceptionnel. Je veux dire, j'ai une bonne théologie, une bonne discipline de vie, j'ai une bonne compréhension de la Bible quand même. Franchement, j'ai une expérience en tant que chrétien, une expérience assez riche et unique de la vie chrétienne. J'ai un mariage plutôt solide et réussi, je sais comment élever des enfants, etc., etc. Mais que dit la religion de l'apôtre Paul ? Que dit la religion de l'apôtre Paul qui, chez lui, procède d'un cœur contrit devant un sauveur meurtri ? Que dit-il, Paul ? Je considère tout ça comme des ordures, dit-il. Comme des ordures, tellement c'est insignifiant, et tellement c'est méprisable, et tellement ça va conduire à avoir un christianisme disproportionné et en même temps, par conséquent, hideux. Il dit tout ça, c'est comme des ordures, je considère tout comme une perte, dit l'apôtre Paul, à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Vous voyez la place prépondérante qu'occupe la relation de Paul avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa religion, comparé à tout le reste. Il a tout relativisé par rapport à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors pour conclure rapidement, j'espère que vous voyez pourquoi je disais en introduction que la leçon de ce texte pouvait se résumer à ceci. Le christianisme devient nocif quand Jésus n'y occupe pas la place qui lui revient. Et nous avons tendance, effectivement, vous et moi, à donner à certaines choses dans notre religion une place disproportionnée qui finit par défigurer notre christianisme. Mais en plus, nous nous attachons beaucoup à ces choses qui, par ailleurs, je le répète, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, hein, mais nous nous attachons beaucoup à ces choses-là qui prennent cette place disproportionnée dans notre religion parce qu'elles constituent pour nous des cachettes toutes trouvées pour y dissimuler notre péché. Derrière notre zèle, derrière notre piété ostentatoire, quel est en vérité l'état de notre cœur? Et quels sont les péchés que nous excusons subtilement et dont nous détournons notre attention ainsi que celle des autres, quand nous poisons les autres chrétiens, lorsque nous accusons les autres, ceux notamment qui ne pensent pas comme nous, alors que la religion authentique, celle que nous enseigne Jésus notamment, je pense dans ce passage, consiste non pas à s'imaginer meilleur que les autres, ça consiste pas à se considérer comme assez juste aux yeux de Dieu pour pouvoir faire prévaloir auprès de lui un quelconque mérite, mais la religion authentique, la religion chrétienne, la religion de la Bible, en dépit de tout ce qui nous vient naturellement, dans notre condition déchue, en dépit de l'impression qu'on a pu, peut-être par le passé, donner au monde, et peut-être qu'on donne encore au monde, j'entends au monde non chrétien, en dépit de tout cela, la religion chrétienne authentique consiste à reconnaître sa misère, à s'humilier devant Dieu et à espérer en son nom. Comme l'a dit Martin Luther, il y a presque 500 ans maintenant, c'était la première de ces 95 thèses, hein, clouée à la porte de la cathédrale de Wittenberg. Je cite, « En disant « Faites pénitence », notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. C'est dans cette posture, vous voyez, et seulement dans cette posture que Jésus va nous apparaître vraiment admirable. Vraiment comme ce rédempteur admirable qu'il est. Et ainsi, la qualité de notre religion ne se mesure pas d'abord à notre doctrine ou à notre conduite, mais d'abord à la relation personnelle que nous avons à Jésus-Christ. Si le christianisme vous enorgueillit, ou si à l'inverse le christianisme vous rebute, vous repousse, c'est peut-être, pas forcément, mais c'est peut-être parce que ce n'est pas le vrai christianisme. Le meilleur remède consiste tout simplement à méditer la croix. À méditer la croix du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est pour ça que je pense qu'on n'a pas trouvé de meilleur symbole chrétien que la croix, où Jésus a souffert, où Jésus a agonisé. Méditons la croix et ensuite considérons, comme dit Paul, tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Amen. Prions. Parfois ta parole, Seigneur, a des choses difficiles à dire, enfin difficiles à entendre pour nous. Elle le dit sans mal et nous avons du mal à les recevoir ces choses parfois. Seigneur, merci de ta correction paternelle, merci de ta correction dans ma propre vie. Je prie que tu poursuives ton œuvre, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, que tu fasse naître en nous cette contrition qui ne vient pas naturellement. Que tu nous aides à porter nos regards, notre attention sur la croix, et que nous puissions tout relativiser par rapport à Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Amen.